Alors, premier sujet, évidemment, le recul complet du gouvernement sur la réforme de l'immigration. Vendredi, court communiqué du premier ministre pour dire finalement qu'il suspendait l'application du règlement et qu'il était pour faire une vaste consultation avec tous les acteurs du milieu.
On se souvient que la CAQ est intouchable. C'est un parti qui vit une lune de miel fantastique et on a un premier de classe, quelqu'un qui fait un travail génial. Un premier de classe, c'est souvent quelqu'un qui travaille seul. Hein? Il est toujours assis en avant, près du pupitre du maître ou de la maîtresse. Et c'est un peu ce qui est arrivé, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui a fait un travail, il voulait aller rapidement, il voulait faire passer une loi qui était importante dans sa vision idéologique de l'avenir du Québec. Et il s'est empressé, il n'est pas allé consulter personne. Il a 35 ans, c'est une belle leçon. Espérons que cette leçon-là va lui servir. Mais il va faire quoi? Est-ce qu'il va être capable de se relever de cet échec-là? Est-ce qu'il va être capable de rétablir des ponts avec le reste du cabinet? Parce que c'est vraiment pas simple. Tu te dis, toi, là, tu nous as mis dans tout un merdier. Alors, il va falloir qu'il se ressaisisse. Je pense que c'est quelqu'un qui a à cœur l'avenir du Québec. J'ai lu son livre. Je parle de Jolin Barrette. On n'a pas un livre qui dévoile de grandes visions pour le Québec, mais qui dévoile une passion certaine et une volonté de s'impliquer pour faire du changement. Alors, espérons qu'il va se relever, mais ça va être un défi important pour la CAQ.
Moi, j'aimerais... Jolin Barrette a fait des erreurs qu'il a faites, là, pour les raisons que tu mentionnes, d'ailleurs, c'est sans doute exactement ces raisons-là, mais on va parler de l'ensemble du gouvernement, parce que comparons avec d'autres lois et règlements qui ont passé dans le passé, qui ont fait l'objet d'un travail d'équipe. Donc, tu sais, la réforme Couture-Cullen, en 78, sous l'évêque. Après ça, les lois sur l'immigration, la modification de la loi sur l'immigration. Après ça, la loi 101, puis la modification de la loi 101. Ça se discutait en caucus pendant des semaines. Et ça se discutait au bureau du premier ministre. Il y a toutes ces histoires-là où l'évêque voulait pas aller aussi loin que Lorrain sur la loi 101, puis là, il s'était fâché, puis là, le parti s'en est mêlé. Ça prenait des mois avant d'établir un consensus. Où est-ce qu'on met la ligne? Puis, après ça, on se rappelle de Bourassa. Pareil, Bourassa, qui agissait jamais sans avoir consulté jusqu'à plus soif l'ensemble des intervenants. Alors, ce que ça nous dit, c'est que soit le gouvernement ne travaille pas en tout en équipe, il n'y a pas de discussion autour de la table, et si c'est ça la réalité, bien, deux possibilités. Il y a le Globe and Mail qui dit, sans doute que ça ne les intéresse pas tant que ça. Donc, le Globe and Mail pense que la question identitaire, la question de l'immigration n'intéresse pas Legault tant que ça, qu'il est embarqué là-dedans, mais qu'il se fie aux autres, puis qu'il est prêt à aller d'un sens comme de l'autre. Puis d'ailleurs, la vitesse avec laquelle il est passé d'une position à l'autre semble donner raison au Globe and Mail, parce que si tu y tiens tant que ça, est-ce que tu recules en deux jours? L'autre hypothèse, c'est qu'il y tient beaucoup, mais il y a un gros problème d'organisation dans le parti, dans le fonctionnement du gouvernement. Il laisse ses ministres avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Il les laisse faire des annonces, il les laisse faire avancer. Et là, je veux bien qu'il fasse ça, là, c'est bien, c'est de l'empowerment, mais à un moment donné, il faut que tu tiennes les rênes. Il y a des directeurs de cabinet qui sont censés recevoir les témoignages, où tu en es rendu dans ta loi. OK, on va en discuter en caucus. Toutes ces étapes-là n'ont pas été faites. Pourquoi toutes ces étapes-là n'ont pas été faites? Moi, je pense que toutes ces étapes-là n'ont pas été faites aussi pour le mini-budget. Je pense que pour le mini-budget, la décision de faire une réduction extrêmement importante pour les familles qui gagnent en haut de 148 000 et 167 000 $ par année, mais pas faire l'équivalent pour ceux qui sont en garderie privée, me semble un trou énorme. Et j'ai l'impression que c'est le genre de trou que tu dois attraper quelque part. Et puis, la décision de passer le bâillon par Jolin Barrette, alors que c'était le fédéral qui avait les pouvoirs de modifier, d'accepter ou pas le test des valeurs, ça avait que c'était un trou gigantesque, je l'avais dit sur le champ. Ce sont des gros, gros trous, là. Alors, normalement, une équipe voit ce trou-là. Si une personne ne voit pas le trou, une équipe voit le trou. Et où l'équipe?
C'est sûr que tu arrives avec un gouvernement, premier gouvernement de la CAQ, un parti qui est là depuis un bout de temps, mais qui prend le pouvoir pour la première fois. Quelqu'un qui est dans l'antichambre, M. Legault, depuis tellement d'années, qui rentre là, qui pense avoir tout couvert, puis avoir des solutions pour plusieurs problèmes. Et là, tu te dis, oh boy, on fait ce genre d'erreur-là. Moi, je m'interroge, est-ce que ce gouvernement-là a les capacités intellectuelles de ses ambitions? Parce que là, on n'est plus qu'en immigration. On a des enjeux fondamentaux en culture. Comment est-ce qu'on va réagir en culture? Mais encore plus, de façon plus importante, et moi, ce qui me fait peur, c'est l'éducation. Mm-hmm. Parce que on se souviendra que M. Legault, c'est un ministre qui se considère comme probablement l'une des personnes les plus connaissantes de la question de l'éducation. Et aujourd'hui, on a balayé du revers de la main une commission parent 2.0, alors qu'il y a un paquet de gens aujourd'hui qui la réclament, qui disent « Écoutez, là, c'est bien beau de canceller vos commissions scolaires, mais ça va mener à quoi, ça? Et c'est quoi la grande vision aujourd'hui pour l'éducation? » J'écoutais Normand Baillargeon, qui est un philosophe pour qui j'ai énormément de respect. S'il y a quelqu'un qui fait un travail de fond sur l'éducation au Québec, c'est bien lui. Il en fait une chronique hebdomadaire dans Le Devoir. Il dit « Écoutez, là, il dit, on a la chance de pouvoir s'interroger sur les meilleures pratiques, des pratiques probantes en éducation. Et aujourd'hui, on est en train de dire non. On sait c'est quoi les réponses, on sait c'est quoi les solutions, puis on va les implanter. » Alors, il va falloir, je pense, que M. Legault fasse plus que uniquement dire « Oh, là, on va encadrer M. Jolin Barrette, on va le faire travailler avec les autres. » Il va falloir qu'il revoie sa façon de penser. Et comme tu le disais, on ne doit pas bulldozer des changements et des idées importantes pour la société. Il faut que ce soit
fait. Mais en même temps, les gens s'attendent à ça.
Non, mais
tu sais, je te donne l'exemple, là, des médecins spécialistes. Ils sont en négociation. Il n'a pas dit « je me donne jusqu'à la fin du printemps ». Il a dit « si à Noël, c'est pas réglé, loi spéciale ».
Tu as raison sur des questions tactiques. Là, aujourd'hui, on arrive puis on dit à des médecins spécialistes « on va aller récupérer une partie de l'argent ». Je pense que, stratégiquement parlant, on n'est pas en train de remettre en question le système de santé au Québec. Mais au niveau de l'éducation, on est rendu là. Alors, sur des questions comme l'immigration, qui sont très importantes, sur la culture et sur l'éducation, il va falloir qu'on ait des réflexions qui vont inclure non seulement tous les ministres, parce que semble-t-il que ça, c'est pas le cas, ils travaillent pas ensemble, ils s'échangent pas les textes de loi, mais il va falloir qu'ils incluent également la société civile, parce que la société civile a quelque chose à apporter au débat.
Mais peut-être aussi que c'est un style de gouvernement. Comme tu dis, les gens s'attendent à ce que il y a des choses qui se fassent. Puis secrètement, beaucoup de Québécois se réjouissent de l'attitude de Legault dans des dossiers comme la négociation avec les médecins spécialistes. Mmh. En disant, c'est un bulldozer, ben de ce coup-là, tant mieux que ce soit un bulldozer. Maudit qu'on est content. d'autres fois, comme tu dis, il y a des questions que tu juges stratégiques où on voudrait qu'il prenne un peu plus son temps. Moi, je mettrais la ligne sur qui tu fais souffrir. C'est-à-dire que il y a des questions de principe, tu sais. Puis, par exemple, dans le budget, ils ont décidé que ils aidaient la classe moyenne supérieure. OK, fair enough. Il y a plein de gens qui m'ont écrit en fin de semaine, des mères monoparentales, qui sont complètement écartées par le budget, par le mini-budget, par des milliers de dollars qui sont redistribués, là. Allocation familiale pour le deuxième enfant, uniformisation des tarifs de garderie, uniformisation de la taxe scolaire, oui. Pourquoi moi je suis mis de côté et là-dedans des mères monoparentales avec enfants, dans un cas en particulier enfants autistes, tu dis ben ouais, qui tu fais souffrir quand tu prends une décision vite? Quand tu prends une décision vite, là, qui tu mets de côté? Avec le voile, il y avait quoi, une centaine de personnes qui étaient. Il a pu faire son calcul, d'accord. Avec le budget, le mini-budget qu'il a fait, on parle de milliers de personnes que tu mets de côté. Quand tu vas vite, tu mets des gens de côté. Pose-toi la question de savoir qui sont ces gens-là. Combien ils vont souffrir?
Au retour, taxer les automobilistes selon les kilomètres parcourus.